Dateline Edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline Edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacun, à chacune, les témoins de l'invisible vous sont présentés comme tous les mois par Christophe Jubien, votre serviteur. Cette émission, je vous le rappelle, dédiée à l'histoire des apparitions d'OVNI, indépendamment de ce que peuvent être ces objets volants non identifiés. C'est Joël Ménard qui, en l'occurrence, est à mes côtés. Joël Ménard, ufologue depuis près d'un demi-siècle, ancien directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit, auteur de trois excellents livres sur le sujet qui nous occupe, notamment Les apparitions d'OVNI, son dernier livre publié au Mercure dauphinois. Joël Ménard nous fait profiter de ses connaissances, nous ouvre ses archives depuis maintenant un an, et c'est grâce à lui qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur l'histoire des apparitions d'OVNI. Nous en sommes en 1954, il va se passer des choses tout à fait extraordinaires sur le sol français, mais ailleurs dans le monde aussi. Nous reprenons le cours de cette histoire fabuleuse des OVNI avec Joël Ménard.
Poursuivons. En mai, le 6 mai, à Washington, les radars détectent des ovnis au-dessus de la ville, ce qui rappelle aux intéressés les événements formidables de juillet 1952. Et exactement une semaine plus tard, le 13 mai, il y a à nouveau détection par les radars au-dessus de Washington, D.C. Et on observe un objet de forme discoïdale ou peut-être sphérique d'un diamètre d'environ 75 mètres, immobile à 24 000 mètres d'altitude pendant environ 3 heures. Le délai entre ces deux détections radar à Washington de 7 jours rappelle également les événements de 1952, puisque les événements de 1952 s'étaient produits à 7 jours d'intervalle dans des conditions tout à fait semblables. Donc les responsables américains, voyant ça, doivent se dire, ça y est, ça recommence, comme il y a 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? En plus de cet objet détecté à 24 000 mètres d'altitude, alors une petite parenthèse, 24 000 mètres d'altitude, c'est très supérieur au plafond de tous les avions de l'époque. Depuis, on a fait mieux. Maintenant, on peut aller à 24 000 mètres et même au-delà. Mais en 1954, il n'y avait pas d'avion qui était capable de monter à cette altitude. En plus de ce gros objet, deux autres ont été vus à très basse altitude, eux, pendant plus d'une heure au-dessus de la région de Washington. Comme la population, dans la mesure où elle était au courant, demandait des explications, un porte-parole de l'US Air Force a dit, et ça c'est à noter d'une pierre blanche parce que ça n'arrivait pas souvent, qu'il s'agissait d'un objet volant non identifié. Le plus souvent, presque toujours, les déclarations officielles minimisaient les observations et insistait sur le fait qu'il n'y avait pas de signe d'un danger pour la sécurité nationale. Ce qui convainquait sans doute quelques personnes, mais certainement pas tout le monde. Encore en mai, mais je n'ai pas la date précise, le Dallas Herald du 25 mai rapporte que 4 F-86 ont tenté d'intercepter 16 ovnis au-dessus de Dallas, Texas, en vain, comme presque toujours. Les ovnis étaient trop maniables et trop rapides et ont échappé à leur presque intercepteur. Le 31 mai, c'est un disque lumineux qui est observé au-dessus de Spokane et de Portland, dans l'extrême nord-ouest des États-Unis. Le 23 mai, le pilote d'un F-51, c'est-à-dire d'un P-51, un Mustang, on dit F-51 parce que à partir de décembre, enfin de la période qui va du 18 septembre à la mi-décembre 47, l'US Army Air Corps est devenu l'US Air Force et ça a impliqué beaucoup de changements, notamment certains changements dans la désignation des avions. La catégorie P pour Pursuit est devenue F pour Fighter, et les Mustangs, ce que tout le monde appelle les Mustangs, les P-51 sont devenus des F-51. Fermons la parenthèse, le 23 mai, donc, le lieutenant Harry Ross pilote un F-51, il a décollé de Columbus dans l'Ohio. Il est accompagné à son corps défendant par un objet très lumineux. Il réussit à joindre par radio le contrôleur de la navigation aérienne, George Barnes. Il lui signale ce qui se passe. Barnes regarde à la jumelle et voit l'OVNI qui évolue autour de l'avion de Rowe. Le 26 mai, donc 3 jours plus tard, une énorme lumière est observée au-dessus d'un site nucléaire dans l'est de l'État d'Idaho. Et puis cette lumière s'éloigne à une vitesse fantastique et disparaît. Le 29 juin, donc un mois plus tard, c'est un avion de transport civil, un Stratocruiser de la BOAC. BOAC, c'était une compagnie britannique qui est devenue British Airlines. Un Stratocruiser de BOAC rencontre au large de Goose Bay, au Labrador, un objet en forme de cigare accompagné d'objets plus petits. Au bout d'un moment, les objets plus petits, après avoir escorté, mais de loin, l'avion anglais, pénètrent à l'intérieur du gros objet, on ne les voit plus, et tout ça est détecté par le radar de Goose Bay. Quand le Stratocruiser de la BOAC arrive à destination, ou plus exactement, quand il arrive à l'étape où il doit faire le plein, puisqu'à l'époque on ne traversait pas l'Atlantique d'une traite, quand il atterrit au Labrador pour faire le plein, il y a déjà là des enquêteurs américains, des militaires américains et canadiens qui se précipitent vers l'équipage de l'avion et qui demandent un maximum de précision. Qui donne une explication aux personnes concernées, c'est-à-dire à l'équipage et aussi, j'ai oublié de le dire, aux passagers qui ont observé le phénomène. Il s'agissait, selon eux, d'une éclipse solaire. Alors effectivement, il devait y avoir ce jour-là, et il y a certainement eu une éclipse solaire, mais qui allait se produire 12 heures après. Autrement dit, l'explication était complètement bidon, elle était d'ailleurs ridicule, parce que la description donnée par les témoins ne correspond en rien à l'aspect d'une éclipse solaire. Et puis en plus, c'était pas à ce moment-là, c'était 12 heures après l'éclipse. Donc, ce cas-là est intéressant parce que c'est un exemple de plus, mais en 54, on en connaît déjà des centaines, d'explications totalement bidons qui sont proposées pour calmer les gens, pour détourner l'attention, ou dans le but de détourner l'attention. Ça, c'était le 29 juin. Quelques jours plus tard, le 1er juillet, il y a un drame qui se produit. Alors, ça se passe dans l'État de New York. Il y a un F-94 qui survole la région d'Utica, à l'ouest de New York. Et brusquement, alors il faut peut-être dire ce que c'est qu'un F-94, c'est un intercepteur assez moderne à l'époque, un avion équipé de la post-combustion et d'un radar, et qui a pour fonction d'intercepter les aéronefs indésirables. Il y a à bord un pilote et derrière lui un opérateur radar, exactement comme sur le F-89 de Moncla et Wilson, qui a disparu fin novembre de l'année précédente au-dessus du lac supérieur, dans le lac supérieur. Donc, ce 1er juillet 54, un F-94 survole Utica, quand tout à coup, un objet survole l'avion, et dans la cabine, le pilote et le radariste ressentent une chaleur absolument intenable, insupportable. Donc ils déclenchent l'éjection et ils descendent en parachute. Pour eux, ça se termine pas trop mal, mais l'avion tombe sur la petite ville de Walesville, tue 4 personnes, un couple et leurs 2 enfants dans une voiture, et fait 5 blessés graves. Donc c'est un drame. Un OVNI a, apparemment, hein, si les données dont on dispose sont les bonnes, mais il y a guère de raison de supposer le contraire, et, on a là 4 morts et 5 décès qui résultent de l'apparition d'un OVNI. Notons quand même que l'OVNI n'est que la cause indirecte du drame qui a frappé ces 9 personnes. C'est pas l'OVNI qui a tué les victimes. L'OVNI n'a fait que provoquer l'éjection de l'équipage du F-94. Et c'est l'avion sans pilote qui, dans sa chute, a fait toutes ses victimes. Vers la même époque, il y aurait eu, mais ça je le dis au conditionnel, parce que je n'ai pas réussi à retrouver l'information, il y aurait eu un cas relativement analogue, quoique beaucoup moins grave, en France. Un fougas magistère, c'était vraiment le début des magistères en 54. Il s'agit peut-être du tout premier prototype. J'ai pas vérifié la date des premiers vols des premiers magistères. En tout cas, dans la région de Pau, un prototype de fougas magistère aurait été également accompagné de très près par un ovni, et le pilote aurait ressenti une chaleur terrible dans l'habitacle. Je me souviens d'avoir lu un document il y a très longtemps qui racontait cette histoire, mais je suis absolument incapable de remonter à la source. J'imagine qu'il y a de grandes chances pour que le pilote ait été soit Léon Bourriaud, soit Jacques Grangette. Plus probablement Léon Bourriaud. Si jamais un auditeur de Radio Grand Ciel était au courant de cette affaire, j'aimerais bien en savoir plus. Quoi qu'il en soit, dans le cas français, il n'y a pas eu de victime. Le pilote, d'abord, on ne s'éjectait pas d'un magister, hein, on pouvait simplement en sortir par le côté. Mais le pilote n'a pas quitté l'avion, tout s'est, je crois, bien terminé. L'analogie entre ces deux cas, c'est la chaleur extrême ressentie dans l'avion. Vers la même époque, un personnage très célèbre en Grande-Bretagne, Lord Dowding, déclare publiquement que les ovnis sont d'origine extraterrestre. Venons-en à cette déclaration. D'abord a été faite au début de l'été. Le 15 juillet, on trouve en France une observation assez intéressante entre Beaux et Hennebon, dans le Morbihan. Madame Requeda circule à 4h moins le quart du matin à bord de sa deux chevaux avec ses deux jeunes enfants à l'arrière. Elle se rend en vacances, tout simplement. Elle a choisi de faire le trajet de nuit, et ça fait 5 heures qu'elle roule, quand, entre Beau et Hennebon, elle voit passer devant elle, de sa gauche vers sa droite, une chose bizarre. C'est comme une assiette renversée, dont elle ne perçoit clairement que la partie droite, l'extrémité gauche étant enveloppée dans 3 volutes de fumée. Et tout ça est de couleur rose. C'est une couleur qui est rarement signalée dans les observations d'OVNI. La couleur la plus signalée par les témoins, c'est de très loin le orange. Mais Madame Requeda, elle, a vu ce phénomène rose, lumineux. Elle a arrêté sa voiture, elle est descendue de la voiture, tout en laissant tourner le moteur, et elle n'a pas entendu de bruit venant de la chose. Et la chose a poursuivi son chemin vers la droite de la route et a disparu derrière des arbres. Le 7 août, le capitaine d'un bateau néerlandais, le capitaine s'appelle Jan Bos, capitaine du Grote Beer, voit un objet discoïdal qui sort de la mer et qui s'éloigne à grande vitesse. Cela se déroule au large du Cap Cod, c'est-à-dire de la côte est du Canada. Maintenant, venons-en du 11 août. Frank Edwards, le sympathique ufologue fabricant d'émissions de radio à succès, qui avait, je vous le rappelle, 13 millions d'auditeurs à l'époque.
Je ne vous garantis pas qu'on en ait autant, Joël.
Dommage. Il perd son travail, tout simplement. La compagnie qui l'employait lui signifie qu'il est viré, alors qu'il était l'un des trois présentateurs de radio les plus écoutés aux États-Unis à l'époque. On lui reproche notamment de trop parler d'OVNI. C'est à la suite de ça que Frank Edwards va écrire les livres dont on parlait tout à l'heure, et notamment ce livre qui a été traduit en français, Soucoupe volante, affaire sérieuse. La perte de son travail par Frank Edwards, c'était le 11 août. 5 jours plus tard, on a l'affaire de Tananarive, qu'on a déjà évoquée sur Radio Grand Ciel, je crois.
Oui, la dernière fois, oui, oui.
Bon, rappelons en deux mots de quoi il s'agit. Il s'agit d'une extraordinaire observation d'OVNI, comme on n'en rencontre pas tous les jours. Je résume très, très brièvement. Le lundi 16 août 1954, un objet en forme de fuseau d'aspect métallique, à peu près de la longueur du fuselage d'un DC-4, c'est-à-dire d'un assez gros avion, survole la ville de Tananarive en faisant des évolutions, c'est-à-dire que il prend un certain nombre de virages, des virages très, très brusques, et il survole plusieurs quartiers de Tananarive. Son passage à très basse altitude au-dessus de la ville est observé par un très grand nombre de témoins. L'un de ces témoins n'est autre qu'Edmond Campagnac, à l'époque directeur des services techniques d'Air France à Tananarive. Et c'est d'ailleurs Edmond Campagnac qui a fait connaître cette observation dans les années 60. Par la suite, des ufologues français et malgaches ont fait un travail assez formidable, assez remarquable. Et on connaît maintenant, d'une part, la date précise de l'observation, parce qu'Edmond Campagnac se souvenait seulement que c'était un lundi soir, mais ne savait pas lequel. Et on connaît les noms de 10 autres témoins, ce qui fait un total de 11 témoins. Il y a soit 5 Français et 6 Malgaches, ou bien l'inverse. Mais on connaît les noms de ces gens. On a les déclarations écrites de plusieurs d'entre eux. Et le phénomène a provoqué des effets physiques notables lors de son passage. Quand il a survolé l'avenue de la République, ce qui s'appelait à l'époque l'avenue de la République, il a provoqué sur son passage l'extinction de l'éclairage public qui venait de s'allumer et qui s'est réallumé quand l'objet s'est éloigné. Il y avait d'autre part un témoin qui était chez le dentiste quand ça s'est produit, et le dentiste opérait sur une terrasse. Le témoin que j'ai eu la chance de, non pas de rencontrer, mais d'interroger longuement et avec qui j'ai eu une correspondance plus qu'intéressante, était en train de subir la roulette du dentiste quand ils ont vu la chose arriver au-dessus de l'avenue. Et la roulette du dentiste s'est arrêtée pendant que l'objet était tout près de là. Et quand l'objet s'est éloigné, à nouveau la roulette a fonctionné. Bon, ça c'est un effet bien connu, dont on connaît des centaines et des centaines d'exemples. il existe un nombre incalculable de témoignages dans lesquels la présence d'un ovni arrête le moteur d'une voiture ou parfois d'autres systèmes. On notera cependant que il n'existe pas ou quasiment pas de témoignages faisant état d'un ovni qui met en panne le moteur d'un avion. Les ovnis ont immobilisé je ne sais combien de voitures dans je ne sais combien de pays. Et ils n'ont jamais, heureusement, immobilisé d'avion, du moins pas qu'on sache. Le seul cas qui fasse un petit peu exception, c'est le cas du C-46 dans lequel se trouvait en 1945 Leonard Stringfield, qui dit que quand l'objet s'est approché du C-46, les moteurs ont cafouillé et se sont mis à très très mal tourner. Heureusement, l'objet s'est éloigné et les moteurs ont recommencé à tourner normalement. Alors, cette affaire du 16 août 65 à Tananarive, elle constitue à première vue un cas d'OVNI d'une qualité quasiment sans pareil, puisqu'il y a un nombre énorme de témoins, Edmond Campagnac parlait de milliers de témoins, et qu'on a fini par connaître les noms de 11 d'entre eux. C'est pas vraiment suffisant, mais c'est quand même pas mal, compte tenu du travail d'enquête que ça a impliqué. Donc, on pourrait imaginer que ce cas, avec en plus les effets physiques qu'il a provoqués et qui ont été bien observés par M. Clavière notamment, c'est lui qui était chez le dentiste, on pourrait imaginer que ce cas-là constitue une preuve de la réalité des ovnis. On sait que le général Fleurquin, qui était le commandant militaire en poste à Tananarive, a chargé le révérend père Cose, C-O-Z-E, d'une enquête sur ce cas. Malheureusement, on ne sait rien sur ce qui a pu se passer ensuite. J'ai cherché il y a longtemps maintenant à contacter le père Cose en vain. J'étais entré en contact avec le comité permanent des religieux de France qui n'a pas pu me renseigner. Ça, c'était vers 1975, à 6 mois près.
Joël, on arrive vraiment au terme de cette émission. Là, on est obligé de rapidement rendre l'antenne, comme on disait au bon vieux temps de l'ORTF. On se retrouve dans un mois pour la suite de cette histoire des apparitions d'OVNI, les témoins de l'invisible. Merci beaucoup.
Okay.